bout du jour sur la première.
Eddie Kakelberg.
Je vous propose à présent d'associer dans notre rubrique qui nous emmène régulièrement vers quelques bouts du monde, l'Égypte et la Chine. Ce n'est pas forcément courant de vous en parler et pourtant ici deux de nos invités vont nous remettre en perspective une vieille tradition apparemment déjà de la part de Pékin qui vient ainsi soulever littéralement l'Égypte et lui proposer des partenariats. Avec nous par téléphone Elena Aoun, professeure et chercheure en relations internationales à l'Université catholique de Louvain, membre du CECRI et du GERMAC, et avec nous également Thierry Kellner, politologue de l'Université libre de Bruxelles, spécialiste de la Chine. Merci à tous les deux d'être avec nous. Thierry Kellner, c'est une vieille affaire. La Chine semble, depuis plusieurs décennies, avoir jeté en quelque sorte son dévolu sur la zone.
Oui, c'est une vieille affaire parce qu'en fait, on l'a beaucoup oublié, mais la Chine et l'Égypte ont entretenu des relations diplomatiques déjà dès les années 50, puisque c'est en 1956 que l'Égypte va reconnaître la République populaire de Chine, ce qui va d'ailleurs être une sorte de coup de tonnerre sur la scène internationale à l'époque, puisque la Chine est un pays qui reste encore relativement isolé, elle est toujours soumise à embargo par les États-Unis, et Nasser va décider donc de reconnaître Pékin. Ensuite, les relations donc suivent un petit peu les alignements de deux pays, donc le conflit sino-soviétique va évidemment poser problème puisque les alignements sont différents. Nasser choisit Moscou par rapport à Pékin et donc évidemment cela fâche Pékin et Pékin de son côté va petit à petit se rapprocher lui de Washington. Donc il faut attendre, je dirais, la disparition de Nasser pour que les deux pays finalement donc renouent. Mais à partir de ce moment-là, donc déjà sous Sadat et plus encore sous Moubarak, les deux pays vont nouer un grand nombre de relations au niveau économique, on a des échanges diplomatiques et on a aussi surtout à l'époque des livraisons d'armes. Livraison d'armes chinoises, donc au Caire en fait. C'est quelque chose qui effectivement n'est pas toujours très connu, mais qui était très présent dans les années donc 70, 80 et jusqu'aux années 90.
Elena Aoun, en vous souhaitant le bonsoir, quel est l'intérêt en fait pour l'Égypte d'avoir mis, je dirais pratiquement tous les fers au feu, hein, parce qu'on vient de le rappeler effectivement, l'alliance avec la Russie, avec l'Union soviétique à l'époque était forte, on se souvient aussi de l'affaire du barrage d'Assouan par exemple, et puis en même temps un fer chinois, peut-être plus dans l'arrière-salle. Quel était l'intérêt pour l'Égypte ?
Écoutez, les intérêts égyptiens étaient bien évidemment multiples. Donc, on se place essentiellement à la fin donc des années 70, début des années 80, ce qui correspond en gros à l'accord de paix avec Israël. Donc, c'est une période de mise au ban, un peu notamment sur la scène arabe et dans une certaine mesure africaine de l'Égypte. Et du coup, essayer de multiplier les partenariats, c'est quelque chose qui est absolument important pour l'Égypte à cette époque-là. Puis, bien évidemment, nous avons l'assassinat de Sadat. Et puis, progressivement, donc on s'affirme Moubarak en Égypte. Et Moubarak a une vision extrêmement positive de la Chine. Il y avait déjà été en tant que vice-président à l'époque, donc dans les années 70. Et c'est quelqu'un qui a énormément d'admiration pour le modèle chinois. Et donc, à la fois, cette tentative de multiplier les partenariats, cette tentative de rechercher aussi des partenariats à la fois politiques mais également économiques, cet attrait pour le modèle un peu alternatif présenté par la Chine, sachant que le modèle chinois est tout à fait différent par rapport aux alliés plus traditionnels tels que les États-Unis et un certain nombre de pays occidentaux, et bien tout ça constitue autant d'intérêt pour l'Égypte déjà à cette période-là de coopérer davantage avec la Chine.
Thierry Kellner, la Chine ne s'embarrasse pas non plus des évolutions du régime égyptien, semble-t-il, parce que lorsque on passe de Moubarak à Morsi et puis à Sisi, avec les événements et les bousculades que l'on sait, ça n'a pas l'air d'émouvoir profondément Pékin dans sa relation à l'Égypte.
Non, justement, ça c'est un des traits, je dirais, marquants de la politique chinoise à l'égard de l'Égypte et de manière générale, c'est que Pékin s'appuie sur le principe de non-ingérence donc dans les affaires intérieures des États. Il y a une certaine neutralité par rapport au régime politique. En tout cas, ça c'est la rhétorique officielle. Ça permet d'être extrêmement pragmatique, donc de passer effectivement des militaires à Morsi et puis de Morsi à Al-Sisi sans finalement remettre en cause les relations qui ont été mises en place en fait. Donc c'est cette flexibilité, l'utilisation de ce principe donc de non-ingérence qui effectivement permet à Pékin de nouer des liens avec les différents régimes qui se mettent en place successivement donc en Égypte de manière très rapide avec des orientations très différentes, mais dont on remarque tout de même que chacun donc, des trois régimes qui se sont succédés donc, rapidement en Égypte ont recherché effectivement le partenariat avec Pékin, parce que Pékin avait des choses à offrir, comme Elena Aoun vient de nous le préciser.
Ben oui, mais précisément, Elena Aoun, vous le rappelez dans cet article que vous co-signez avec Thierry Kellner, dès décembre 2014, le président Al-Sissi est officiellement associé à l'initiative de ces fameuses nouvelles routes de la soie. Ça veut dire que l'Égypte est devenue une tête de pont chinoise ?
Elle était déjà dans une certaine mesure auparavant, puisque nous parlons déjà d'un partenariat stratégique à partir de 1999. Donc la Chine est particulièrement intéressée par la position centrale de l'Égypte, donc à la fois un tremplin vers l'Afrique, un tremplin vers le Moyen-Orient bien sûr, mais également ouverture vers la Méditerranée. Et donc ce qui se passe bien évidemment avec la mise en place de l'initiative Belt and Road de Xi Jinping, nous avons un accroissement de cette valeur géopolitique, géostratégique de l'Égypte à la confluence quasiment de trois continents. Donc ça, c'est absolument important. Et donc, ce qu'on voit en décembre 2014, c'est le passage à la vitesse supérieure entre les deux pays, puisque là, on en arrive non plus à un simple partenariat stratégique, mais un partenariat stratégique global, donc qui est supposé vraiment balayer tout l'éventail des relations bilatérales possibles. Et la Belt and Road Initiative, les fameuses routes de la soie, sont un élément parmi d'autres, mais un élément où bien évidemment l'Égypte, de par sa situation géographique, est absolument importante. Il ne faut pas oublier non plus toutes les potentialités égyptiennes, donc au niveau économique, mais ça demande également d'infrastructures. Là aussi, réfléchissez à la géographie, sa capacité à faire transiter rapidement des produits, que ce soit vers la Méditerranée, vers l'Afrique, tout cela fait bien évidemment de l'Égypte un hub très important pour la Chine et son initiative des routes de la soie.
Oui, ça veut dire également, Thierry Kellner, que cette capacité effectivement à travers le canal de Suez de passer rapidement vers la Méditerranée, mais aussi les routes intérieures vers le centre de l'Afrique, sont des pions importants dans une Chine qui est peut-être de moins en moins soft power et réfléchit à d'autres formes de puissance.
Alors oui, c'est évidemment la question qu'on peut se poser, puisque la Chine, depuis maintenant quelque temps, commence à développer, je dirais, des coopérations davantage en termes de sécurité. Alors c'est encore à un niveau qui est faible, mais regardez ce qui s'est passé avec Djibouti. On a une Chine qui a mis en place sa première base militaire à l'étranger. Donc Djibouti, c'est l'entrée de la mer Rouge. Donc la prochaine étape, si on veut, sur la route vers la Méditerranée, c'est l'Égypte. Or, en Égypte, on a là, effectivement, donc le développement aussi de relations sécuritaires. Alors, il n'y a pas de base militaire chinoise, mais il y a une coopération sécuritaire, surtout en matière non traditionnelle, notamment dans la lutte antiterroriste. Il y a aussi des contacts militaires. On a eu des navires chinois qui ont rendu visite à la flotte égyptienne. On a eu des essais de vente de sous-marins, par exemple, chinois à l'Égypte. Donc on voit bien quelque part que effectivement le militaire, finalement, n'est jamais bien loin, parce que quelque part, la Chine a des intérêts de plus en plus globalisés à protéger, et donc comme n'importe quelle grande puissance, comme on dit, le drapeau va suivre le commerce. Et donc effectivement, la coopération donc dans le domaine militaire, c'est peut-être la prochaine étape des relations bilatérales. Alors on n'en est pas là aujourd'hui, puisque la Chine reste extrêmement prudente dans ce domaine-là, et je pense que l'Égypte a aussi une politique de diversification de ses partenariats. Donc là, en tout cas, elle regarde la Chine plutôt du côté de ses capacités donc économiques, de ses capacités en termes d'investissement, et pas encore vraiment au niveau de ses capacités d'un point de vue militaire. En fait.
On terminera avec ce point d'ailleurs, Elena Aoun, parce que Pékin était un fameux bras de levier déjà, mais a été un bras de levier récent lorsqu'elle a permis à l'Égypte, au Caire, d'émerger dans le club de ces fameux BRICS, ces fameux pays en voie d'émergence sur la scène économique mondiale.
Tout à fait. Mais peut-être j'aurais souhaité juste ajouter un petit élément concernant le soft power et l'émergence au niveau militaire. Je pense que, en tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut considérer que l'affirmation au niveau sécuritaire militaire de la Chine participe quelque part de son soft power, dans la mesure où elle n'est pas dans des attitudes, des positionnements particulièrement offensifs. Par exemple, on peut considérer que son déploiement à Djibouti, la base qu'elle y a créée, c'est quelque part un strapontin ou un tremplin tremplin pour le déploiement de ces casques bleus dans le cadre donc des opérations de paix onusiennes. Donc voilà, on peut se demander dans quelle mesure on n'est pas encore dans le soft power, quand bien même nous avons là l'outil proprement militaire. Et concernant la question donc relative à l'adhésion ou à la participation de l'Égypte dans toute la dynamique des BRICS, donc bien évidemment, ceci vient confirmer quelque part cette volonté de la Chine d'essayer de trouver des partenaires solides de l'envergure de l'Égypte et qui lui permettent quelque part de multipolariser le monde, donc d'essayer de faire en sorte qu'on ne soit plus dans cette supposée unipolarité tournant autour de Washington, mais vraiment dans une ouverture de l'échiquier institutionnel avec de nouvelles institutions comme les BRICS, mais bien d'autres. On peut notamment penser à la Banque asiatique pour des investissements profit des infrastructures, la fameuse AIIB. Donc voilà, et l'Égypte, bien évidemment, est sollicitée, et non seulement elle est sollicitée, mais elle adhère très aisément à ces initiatives chinoises, quelque part venant conforter un peu cette dynamique de multilatéralisation dont la Chine semble être particulièrement porteuse dans ces dernières années.
Merci à tous les deux, Elena Aoun et Thierry Kellner, et je renvoie bien sûr à votre article conjoint. Merci d'être avec nous ce soir, ici au bout du jour.